Donc, dans le psaume 73, parce qu'il semble que le Seigneur veut, ce matin, nous rappeler particulièrement ce que nous étions. Qu'il est bon parfois de demander un regard en arrière, vers le départ avec lui, avant que nous ne le connaissions. Verset 21, mon cœur s'aigrissait et je me sentais percée dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. On peut s'associer au psalmiste aussi, c'est-à-dire j'étais stupide et sans intelligence devant toi, Seigneur, lorsqu'on était. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est fort. Cependant, je suis toujours avec toi, le Seigneur nous dit. Tu m'as saisi la main droite.
Amen.
Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Tu me conduis par ton conseil sur la terre. Il nous oriente. Nous ne sommes pas sans berger, sans directeur pour nos vies. Puis tu me recevras à la fin dans ta gloire. Quel autre irais-je? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Que ce soit là notre attitude. Sur terre, que toi, que toi, que toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont inférieurs. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Amen.
Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres.
Amen.
Donc sur la terre, notre refuge, c'est le Seigneur, mais il ne faut pas nous taire.
Amen.
Il faut aller raconter ce que Dieu a fait pour nous, jusqu'à ce qu'il nous reprenne auprès de lui. C'est son plan pour nous. Nous voulons dire avec le psalmiste, Seigneur, quel autre aurions-nous que toi?
Amen. Amen.
Ces paroles m'ont été données pour Jesse. Le Seigneur te dit, Jesse, si les obstacles qui se dressent devant toi te semblent parfois insurmontables, infranchissables, jette un regard sur ton passé et considère mes nombreuses interventions dans ta vie. Souviens-toi des nombreuses fois où je t'ai déjà sorti de situations incroyables. Un regard sur les bénédictions que je t'ai accordées te redonnera confiance chaque fois que tu en auras besoin. Regarde derrière. Ah, c'est vrai. Chaque fois que tu te trouves en difficulté, regarde un peu en arrière ce que Dieu a déjà fait. Peu importe les épreuves que tu traverseras, si je suis avec toi, tu n'auras rien à craindre.
Alléluia.
Oh Jésus.
Merci Seigneur.
Louange et gloire.
Oui Seigneur, nous voulons constamment regarder.
Et puis ce verset du psaume qu'on vient de lire, quel autre ai-je au ciel que toi, ça m'est souligné pour toi. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Que le Seigneur soit le centre de ta vie. Le seul but de ton existence. Il te conduira et t'honorera et te bénira. Et t'aidera en toutes circonstances. Et quand les choses sont difficiles, regarde en arrière. Regarde à ce que j'ai fait pour toi, d'incroyable.
Oui, Seigneur, il est bon de nous rappeler constamment d'où tu nous as sortis.
Toujours.
Afin que nos cœurs ne se découragent point.
Oui.
Et que nos cœurs aussi ne s'enorgueillissent point.
Non, c'est vrai.
Et que nous puissions toujours te donner la gloire et réaliser l'espérance glorieuse qu'est le monde. Car nous avons une espérance. Nous ne pleurons pas comme ceux qui pleurent et qui n'ont point d'espérance.
C'est vrai.
Nous avons une espérance et elle est glorieuse. Pourquoi nous voulons regarder en arrière, c'est vrai, mais pour mieux regarder en avant.
C'est vrai, Jésus.
Car notre espérance est là. Et le jour de notre délivrance approche.
Amen.
Levez vos têtes.
Amen.
Levez vos têtes. mais nous voulons lever nos têtes vers toi, non pas vers les hommes, non pas sur nous-mêmes, mais vers toi. Donne-nous ce qui nous convient pour maintenant.
Amen.
La nourriture qu'il nous faut maintenant par ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de toute sagesse, de toute révélation. Tu es le Dieu vivant qui parle, qui agit, qui te révèle. Merci pour ta parole qui est esprit. Comment les choses ont commencé. Et tout a commencé à la croix. Et j'aimerais qu'on voit dans l'Apocalypse, brièvement, là où il est mentionné 4 fois concernant le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Il y a 4 mentions du sang de Jésus dans l'Apocalypse. 4 mentions. Et ces 4 mentions ont chaque fois un message différent. C'est jamais une répétition. Quand ces paroles sont là, il y a toujours quelque chose de particulier dans ce passage que le Seigneur veut nous communiquer. Et le premier passage, on l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 1, et les versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Vous voyez, la phrase n'est pas finie. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors vous remarquez, l'Apocalypse commence par cette ouverture où Dieu veut nous dire que tout tourne autour du sacrifice de Jésus. La bénédiction pour ceux qui acceptent le sacrifice, mais la condamnation, un jour, viendra sur ceux qui refusent ce sacrifice. On l'a vu tout à l'heure. Et il y en a qui se lamenteront, n'est-ce pas vrai? Et toutes les brutes tribulaires se lamenteront à cause de lui. Donc voyez-vous, tout est concentré dans ce sacrifice. Et l'Apocalypse n'aurait pas de sens si on ne saisit pas la portée du message de la croix, du sang de Jésus. Tout tourne autour de cela. C'est comme une clé qui nous ouvre l'Apocalypse. Et qui nous ouvre le cœur de Dieu. Et ici, vous le remarquez, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous le remarquez, il n'est pas dit à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a aimés. L'amour vient avant. Il n'est pas dit à celui qui nous a lavés et ensuite qui nous a aimés. Parce qu'il y a là un amour extraordinaire. L'amour humain, c'est un amour qui est marchandé en somme. Si tu fais ceci et cela, je t'aimerai. Mais Dieu, c'est tout à fait l'opposé. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Et cet amour-là, il nous faut toujours bien être conscient parce que la sagesse humaine, l'homme avec son intelligence veut mériter cet amour. Et il n'y arrivera jamais. La psychologie chrétienne, comme on dit entre guillemets, et lui mettre le désordre et la pagaille concernant le sens même de l'amour de Dieu. Combien de fois vous avez déplu ces pensées que nous avons mis souvent dans notre littérature. La psychologie chrétienne dit Dieu nous aime parce que nous avons de la valeur. Alors que la Bible dit nous avons de la valeur parce que Dieu nous c'est le jour et la nuit.
C'est le contraire.
C'est le jour et la nuit.
Opposé.
Et aujourd'hui, voilà ce qu'on entend dans beaucoup d'églises. Soi-disant, la psychologie apporte une révélation que la Bible n'a pas. Freud, c'est Freud qui va apporter cette révélation. Un païen.
c'est la révélation de l'amour de Dieu. Qui ne connaît pas lui-même?
Donc, Dieu nous aime parce qu'on a de la valeur, oui. C'est l'accent est passé sur l'homme. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des gens formidables. Mais la Bible ne dit pas ça. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avions de la valeur. C'est à cause de sa grâce, de son amour extraordinaire. Et Romains 5,8 est là pour répondre à ça. Tous les chrétiens devraient connaître ce verset par cœur. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous l'amour dont il est question ici? À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés. C'est un amour qui n'a pas fermé les yeux sur le péché. Et qui dit, je vous aime, mais vous étiez dans un état terrible de rébellion devant Dieu. Vous étiez des ennemis de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, donc des rebelles. Des rebelles. Dieu a montré son amour à notre égard. Il a prouvé son amour lorsque nous étions ennemis de Dieu, loin de lui, impies, pécheurs. S'il m'a aimé lorsque j'étais dans cet état-là, alors à combien plus forte raison que maintenant je suis enfant de Dieu. Mais qu'il m'ait aimé alors que j'étais ennemi, pécheur, et qu'il ait donné sa vie pour que je sois pardonné, réconcilié avec Dieu, ça c'est le plus grand amour. Et il est question de cet amour-là, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés. Voyez-vous, je regardais encore dans le texte grec au début, là le mot, il est bien une question de délivrance. C'est comme si dans son amour, Dieu est venu nous délivrer de nos péchés, de la main du diable, de l'enfer éternel, des ténèbres. C'est un amour qui vient à notre secours pour nous délivrer. Non pas pour nous dire, Dieu vous aime, voilà, je vous sauve parce que vous êtes merveilleux. Dieu nous sauve parce que nous étions esclaves, loin de Dieu,
perdus,
rebelles, impies.
Ouais, aussi.
Et voilà comment il vient. Il s'approche des hommes à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est un amour qui lui a coûté quelque chose. C'est comme s'il voulait nous dire, mes enfants, je vous ai aimés jusqu'au point de donner ma vie pour que vous soyez pardonnés et purifiés. Il n'y avait pas d'autre issue pour être pardonné que ce sacrifice. Le sacrifice de mon fils pour vous délivrer de vos péchés et de la main du diable et de l'enfer éternel. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés par son sang, de nos péchés, par son sang. Nous voyons là l'amour du bon berger qui donne sa vie pour sa brebis qui s'est égarée, qui est souillée dans le péché, et qui vient pour l'en délivrer. N'est-ce pas merveilleux?
Amen.
Non pas parce que nous avions de la valeur. Parce que, au contraire, nous étions pitoyables. Il n'y avait rien en nous qui puisse être agréable à Dieu. Mais dans son amour, il est venu. C'est donc un amour qui ne ferme pas les yeux sur le péché. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'amour, n'est-ce pas vrai? Un amour qui couvre le péché. Ça, ce n'est plus le véritable amour, ça n'existe pas. Et en parlant comme cela, Dieu nous révèle son amour et sa sainteté. Oui, dans ces expressions ici, il y a la révélation de l'amour, mais d'un amour qui est saint. Un amour qui est saint, qui ne peut supporter le péché. Et pour délivrer le pécheur, il doit faire quelque chose pour que ce péché soit expié. Et il n'y avait qu'une façon de le faire. C'était que Jésus prenne sur lui. Lui, l'innocent mort pour nous,
coupable.
Lui, le juste pour nous, injuste. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et alors, quand nous comprenons cela, nous comprenons cet amour extraordinaire. Bien souvent, nous nous passons trop de pommade dans le dos. En disant, en pensant que nous sommes bien, qu'on n'est pas si mauvais que ça. Il y a des gens pires que nous, voyez-vous. Et c'est le propre de la personne religieuse qui pense toujours qu'elle a quelque chose qui peut plaire à Dieu, qui peut mériter le pardon de Dieu. Et des multitudes sont encore avec cette pensée-là et pensent qu'un jour, ils seront justifiés devant Dieu. Il n'y a pas longtemps, je rendais témoignage dans la rue avec quelqu'un. Et ce quelqu'un m'a dit, ah mais moi, que puisque je suis en paix avec mon âme, je suis donc en paix avec Dieu. Regardez jusqu'où ça va. Je suis en paix avec mon âme, donc tout va bien. Et il pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Voyez-vous, on s'est fabriqué un Dieu à notre image. Et c'est là la grande erreur. Et c'est là la raison pour laquelle nous ne goûtons pas, nous ne réalisons pas combien l'amour du Dieu était un amour extraordinaire, incompréhensible. Nous ne pouvons pas le comprendre, nous n'avons qu'à recevoir cet amour, n'est-ce pas? Un amour qui nous aime alors que nous étions haïssables, perdus, esclaves, et qui dit « je viens te sauver ». Mais pour cela, bien sûr, il faut qu'on reconnaisse notre état de péché, de pécheur, d'esclave. Il vient délivrer ceux qui sont prisonniers.
Oui.
Si nous ne croyons pas que nous sommes prisonniers, il ne viendra pas nous délivrer.
Voilà.
Si nous ne croyons pas que nous sommes perdus, il ne va pas venir nous sauver.
Voilà.
Si nous pensons que nous n'avons jamais rien fait de mal, il ne viendra pas pour nous pardonner.
Pardonner quoi?
Quand on n'a rien fait de mal,
oui.
On a tout fait comme tout le monde, on n'est pas plus mauvais que les autres.
Oui,
voyez, l'Apocalypse commence comme ça. Et c'est un point extrêmement important parce que dans ce passage, il y a l'amour de Dieu, mais un amour saint, avec la sainteté de Dieu. Donc d'un Dieu qui ne passe pas par-dessus le péché et qui doit le condamner. Et si Dieu condamne le péché, nous devons aussi le condamner, n'est-ce pas? Ensuite, notre attitude à l'égard du péché doit être comme celle de Dieu. Comme celle de Dieu. S'il est mort pour notre péché, nous maintenant, nous devons vivre loin du péché.
Amen. Amen.
Sinon, c'est un mensonge.
Oui.
Sinon, nous n'avons rien compris.
Ah, oui.
Et quand on... Cet amour extraordinaire qui m'a aimé alors que j'étais esclave du péché, pour me délivrer de cet esclavage, du pouvoir de Satan et du péché, il a brisé, il a payé cette dette, il a brisé ça. Par amour pour moi, pour me sauver. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Après, qu'est-ce qu'il est dit? Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous sauve, non pas pour nous dire maintenant, allez, bah, vous faites ce que vous voulez. Non, non. Il nous sauve pour faire de nous maintenant des adorateurs, des sacrificateurs. Racheter pour ensuite appartenir au Seigneur,
amen.
Appartenir à Dieu. Mm-hmm. Il a fait de nous un royaume maintenant, des sacrificateurs qui appartiennent à Dieu et dont le ministère est de l'adorer, de vivre pour Dieu. Mm-hmm. Car c'était là le but. Je lisais le passage et dans Exode 19:6, c'est ce que Dieu voulait faire avec Israël, déjà avec Israël. Exode 19:6. Il est dit ceci, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous voulez garder mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Vous voyez, c'est ce que Dieu voulait déjà pour Israël. C'est ce qu'un jour ils seront.
Mais parce qu'ils n'ont pas accepté cela, eh bien, ils sont maintenant dans cette errance. Mais un jour, ils reviendront. Mais en attendant, c'est l'Église qui a pris cette place et qui doit être maintenant des sacrificateurs. C'est pourquoi, quand on a vraiment compris l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, nous n'avons qu'un désir, c'est de louer et d'adorer cette personne-là. N'est-ce pas vrai?
Amen.
Parce que une telle personne, un tel Dieu, ne mérite que notre adoration et notre consécration totale. Il s'est donné entièrement, nous ne pouvons pas nous donner à demi-mesure, ça n'existe pas. L'amour de Dieu dans la Bible se conjugue toujours en totalité. Il nous a aimés entièrement, totalement, et nous devons l'aimer entièrement et totalement. Il n'y a pas de demi-mesure, ça n'existe pas. Jésus a dit, puisses-tu être ou froid ou
bouillant.
Mais si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Le tiède, c'est les demi-mesures. Il vaut mieux être un païen encore qu'un chrétien mondain. Où il y a le monde, où il y a soi-disant Dieu.
C'est terrible, ça.
Parce que Dieu dit, c'est pas que tu es là, tu es un hypocrite, ça ne marche pas avec moi. Tu me déshonores, tu me déshonores en plus.
Ah, oui.
Tu me déshonores, tu te dis chrétien et tu vis comme
et
un
tu
païen.
Fais ça.
Et tu vis comme un païen.
Ah,
oui. Tandis que le païen, au moins, lui, il est fier de ses convictions. Il vit comme un païen.
Voilà.
Il sera jugé comme un païen.
Oui, c'est sûr. C'est ça.
Mais toi, ton jugement sera encore plus sévère. Parce que tu te dis chrétien et tu vis comme un païen.
C'est vrai.
Absolument.
Oh là là.
Et tout ça parce qu'on n'a pas compris le sens de la croix. Quand on réalise d'où le Seigneur nous a sorti, la conséquence logique. Et là, Jean, il est là, on le voit, devant ce ravissement de la personne de Jésus-Christ, devant cette révélation, et il saisit que Dieu vient nous sauver, Il est descendu bien bas pour nous retirer et il nous élève jusque sur, près de son trône, sur son trône avec lui. Quel amour extraordinaire pour lui appartenir désormais et faire sa volonté et l'adorer. Vous voyez, dans ce passage ici, il n'est question que de Dieu. Et après, il est dit à lui. Sacrificateur, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous là, l'œuvre de la croix, si on l'a vraiment bien compris, s'interprète par une consécration totale de notre vie au Seigneur. Tu es merveilleux, tu es mon Dieu, tu es mon Rédempteur, je suis à toi. C'est extraordinaire. Il n'y en a pas deux comme toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Quand on a compris ça, toute glorieuse humaine disparaisse. Que de glorieuse humaine dans l'Église, n'est-ce pas vrai? Que de chrétiens s'enorgueillissent eux-mêmes. Que de prédicateurs ne font que se vanter devant les chrétiens. C'est une abomination devant Dieu. La croix n'a pas été saisie dans sa profondeur. Quand on a vraiment saisi la croix, c'est à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles, non pas un homme. Quel qu'il soit. Quand on a compris la croix, on a compris qu'il est venu nous chercher bien bas.
Amen.
Et si on est assis avec lui, c'est par grâce. C'est un effet de sa grâce.
Amen.
Uniquement de sa grâce. Et cela ne doit que nous pousser à l'aimer, à l'adorer. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, nous voulons vivre pour lui et rester avec lui. Quelqu'un qui nous a aimés à ce point-là, dites-moi, où est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a aimé à ce point-là? Moi, c'est avec lui, je veux être. Personne ne m'a aimé comme lui. Vous êtes d'accord? Personne ne m'a aimé, moi, comme lui. Alors, si je dois l'aimer et l'honorer, je dois l'aimer comme il m'a aimé, entièrement. On a des faiblesses, on a tout cela, mais il faut que ce soit entier. Les demi-mesures, il n'en veut pas. Ça le déshonneur, entièrement, et c'est quand on est entièrement qu'on est heureux. Qu'on est vraiment avec le Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Voyons, je voudrais aller un peu plus loin, sinon on va parler d'un autre, à nos quatre mentions. Apocalypse 5, 9 maintenant. On va simplement essayer de voir une précision supplémentaire.
Apocalypse 5, 9, il est dit, « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Vous voyez où là l'expression de sang, hein? « Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Juste une précision en passant. Est-ce que vous voyez de toute nation, il n'est pas dit de toute dénomination. Vous voyez dénomination ici? Hein? Dans ta vie, ta dénomination, Jean?
Non.
À entendre certains chrétiens, qu'est-ce qu'on entend? Bien souvent, il y aura là-haut des gens de toute dénomination.
Oui, oui.
Oui, c'est vrai.
C'est un mensonge. Pourquoi? La dénomination n'existe pas aux yeux de Dieu.
Ah non, du tout.
Ça, c'est la fabrication des hommes. Bon. Ah oui, il y en aura de toute nation, oui, mais pas de toute dénomination. Il y en aura de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Oui. Mais rien. Tout, de tous les peuples, toutes les tribus.
De la terre.
Les plus arriérés. Il y en aura. N'est-ce pas merveilleux?
C'est beau.
Mais pas de toute dénomination. C'est inconnu au ciel. Si quelqu'un vient, moi j'appartiens à telle dénomination.
Ou à telle église.
Ou à telle église, telle dénomination, telle église. Enfin, c'est pour faire le jeu de mots, nation et dénomination.
Ah,
voilà, c'est pour faire ce. Ou telle église, c'est la même chose. Effectivement, on peut le dire.
Bien sûr.
Ah bon, on ne connaît pas. Ça n'a pas de valeur ici. Inconnu.
Ah, ouais.
Tu parles de quoi? Ah oui, mais telle dénomination. On était les plus nombreux sur la terre.
Oui.
On ne connaît pas. Au ciel inconnu.
C'est ça l'histoire.
Ah, mais c'était bien ma dénomination, mon église. On ne connaît pas ici. Ici, il y a des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Et de tout peuple.
Ah ouais, ça non.
Comment? Comment? Il y a un autre endroit où il y a beaucoup de dénominations. Tu sais, c'est là-bas que tu. Si tu es attaché à ça, c'est là-bas que tu dois aller maintenant. Mais si on ne connaît pas ça.
Ça sera tragique pour ces gens-là qui
le savent. Et des multitudes,
leurs yeux vont s'ouvrir.
Malheureusement, vont vivre cela, tragiquement.
Terrible, ça.
Ça, c'était une petite parenthèse, mais elle est importante.
Bien sûr, elle existe. Hein.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Et tu as fait d'eux, voyez, oui, on revoit l'expression, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez en plus? Et ils régneront sur
la terre.
Alors ici, il y a une mention spéciale, et ils régneront sur la terre. Donc il est question ici du millénium. Pendant le millénium, on va régner avec le Seigneur. Il est question donc ici du service. Il nous a rachetés pour qu'on appartienne au Seigneur, à lui, qu'on lui appartienne à lui, pour l'adorer, le louer, le bénir, sacrificateur, et maintenant pour le servir. Il nous a rachetés pour le servir. Chacun d'entre nous, nous avons un service. Il n'y a pas de chômage avec le Seigneur.
Amen.
C'est lui qui chôme, déshonore Dieu. Il n'y a pas de chômage avec le Seigneur. Et ça, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons faire quelque chose. Et nous devons faire quelque chose.
Amen.
Avec l'âge, bien sûr, les choses peuvent changer. Mais nous devons, ils régneront. Il y a là l'élément de service. Et quand on aime le Seigneur, on veut le servir, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'un désir de le servir. Me voici, Seigneur. Puis Paul, la première des choses qu'il a dit quand il s'est converti, que veux-tu que je fasse? Résa. Regardez comme il a saisi. Le ciel était venu sur lui, dans sa tête, dans son cœur. Que veux-tu que je fasse? Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Et là, on voit qu'il s'est abandonné. On a vu que c'était, voyez-vous, une totale consécration de sa vie. Lui qui avait blasphémé l'homme du Seigneur, lui qui avait mis en prison les saints de Dieu, les chrétiens, il les avait martyrisés. Et il voit maintenant que celui que ces chrétiens avaient adoré l'interpelle et l'appelle à son service. C'était trop pour lui. Il était brisé. Voyez-vous son amour, l'amour du Seigneur, en un instant, s'est révélé à son cœur. Moi qui méritais la condamnation, j'étais un blasphémateur, disait-il, un homme violent. Mais Dieu m'a fait grâce. On voit qu'il a compris combien Dieu l'a aimé, et il ne pouvait pas rester insensible et ils le serviront, ils régneront. Si nous sommes sauvés, c'est aussi pour le servir, et non pas pour nous tourner les pouces, mais pour le servir d'une manière ou d'une autre. Et chacun d'entre nous, nous avons un service. Nous avons quelque chose à faire pour lui. Si notre prière est sincère, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Le Seigneur vous
le montrera.
Il vous montrera. Sans aucun problème.
Certains.
Il vous montrera. Parce qu'il vous a donné des talents, et ces talents, il faut les utiliser.
Oui. Il fait la loi.
Et vous savez que l'histoire des talents, là, je le dis souvent, que, quand la mine, là, il avait donné une mine, vous savez l'histoire, celui qui a reçu une mine, il est allé l'enterrer. Et puis alors le Seigneur n'était pas content avec lui. Alors il avait enterré sa mine. Et naturellement, ceux qui enterrent leur mine ont des mines d'enterrement. Ils ont des mines d'enterrement, ils s'en sortent pas, et comme ils font rien, ils ont des mines d'enterrement.
Alors, parce qu'ils ont enterré leur mine.
Parce qu'ils ont enterré leur mine.
Dans des mines d'enterrement.
Et vous avez l'impression qu'ils suivent à l'enterrement un corbillard tout le temps, à ce moment-là.
Suivent les autres.
Suivent les autres. Alors ici, la notion, donc, une fois qu'on est racheté, on expérimente son amour, un amour qui nous attire à lui, qui nous a conquis, et qui nous fait goûter sa merveilleuse personne, qui fait de nous un sacrificateur, et maintenant qui fait de nous un serviteur.
Ouais.
Un serviteur. Il y en a beaucoup qui aiment être appelés apôtres aujourd'hui, mais ils n'aiment pas beaucoup être appelés serviteurs.
Surtout.
Ah, il y en a qui aiment beaucoup être appelés apôtres, prophètes, c'est grand nom.
Ça.
Mais serviteurs, ça, ouais. ça ne les intéresse pas.
Ouais. Ouais.
Alors, ils n'ont pas compris grand-chose de la croix. Le ciel, ils sont bien loin du ciel et du trône de Dieu. Bien loin du ciel et du trône de Dieu. Allons un peu plus loin. La troisième mention, Apocalypse 7, 14, au verset 13. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur... Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et ici, le rapport avec le sang de Christ, c'est un rapport de consolation. On voit que cela... sont sortis de la grande tribulation. Bien sûr, l'Église, on est dans l'Apocalypse 7. Donc, normalement, là, nous vivons dans le temps de la grande tribulation. Et ce sont ceux qui se convertissent pendant la grande tribulation. Mais au prix de grandes souffrances. De grandes souffrances. Mais à cela, Dieu dit qu'ils seront consolés. Autant vous avez souffert entre les mains de l'Antichrist, autant moi, là-haut, je vous consolerai. Je vous abriterai. Et comme pour dire, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, c'est ce qu'ils ont eu. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, comme ils n'avaient pas la marque de la bête. Et puis le soleil, ils n'ont aucune chaleur, ne les frapperont plus. À ce moment-là, il y aura aussi des phénomènes atmosphériques.
Des canicules.
Des canicules, des choses tragiques qui vont se passer. Dans les bancs d'église, au chapitre 4, après cela, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, le son du trompette qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Là, prophétiquement, c'est l'image d'enlèvement d'Élise. Beaucoup de commentateurs bibliques disent cela. D'ailleurs, vous le remarquez, à partir du chapitre 6, le mot « Église » n'existe plus, jusqu'au chapitre 19.
Tout le temps qu'elle n'est plus là.
Donc elle n'est plus là. Voilà. Elle n'est plus là.
Tandis qu'avant, il est parrain de toutes les églises, là, justement. Cathyre, Philadelphie et toutes les autres. Hein.
Et quand on voit le passage qu'on a lu tout à l'heure, Apocalypse 5, 9, eh bien, ce sont les chrétiens au ciel déjà.
Voilà.
C'est les rachetés qui sont déjà au ciel. Et Apocalypse 7, c'est, ce sont des chrétiens, mais qui se sont convertis pendant la grande tribulation. Mm-hmm. Et ceux-là, ils vont passer par de grands. Mais Dieu dit qu'il les consolera. Il s'occupera d'eux. Autant ils ont souffert, autant Dieu va les consoler. Donc là, nous voyons combien le bon berger se tiendra près de ses brebis et il les consolera éternellement. Et la consolation, n'est-ce pas merveilleux? Alors, on n'a pas besoin de tous passer par la grande tribulation pour être consolé. Cela veut dire que le Seigneur est prêt à nous consoler lorsque nous en avons besoin. Il sera là. Le Saint-Esprit n'est-il pas appelé le consolateur? Le consolateur. Le consolateur. Donc, il nous révèle par là qu'il est un Dieu qui console ses brebis, qui passe par la souffrance, par la persécution, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et ils seront consolés. La consolation. Voilà. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. N'est-ce pas merveilleux? Autant ils ont souffert, autant là-haut, ils seront récompensés aussi. Autant ils seront récompensés. Ne l'oublions pas. Il y a un Dieu qui est juste. Dieu est un Dieu de justice. On a parlé de son amour, de sa sainteté. Là, il est question de sa justice aussi. Autant ils ont souffert là-haut, autant ils seront récompensés là-haut. Ils auront la couronne du martyr. N'est-ce pas ? C'est merveilleux. Et même s'il y a des tant de choses qui se passent ici-bas, tout ne sera pas réglé ici-bas. Ce que nous ne comprenons pas maintenant, Jésus l'a dit, nous le comprendrons plus tard. Il l'a dit à ses apôtres. Ne comprenez pas maintenant, mais plus tard vous le comprendrez. Je suis juste. Heureux celui en qui, pour qui, je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste, dans sa prison, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il y a eu un moment de doute. Il fallait dire que les miracles sont là, les aveugles le voient. Et par là, il a su que c'était le Messie qui était là. Vous ne comprenez pas tout. Nous ne comprendrons pas tout, mes amis. Nous ne comprendrons pas tout.
C'est sûr.
Nous n'avons pas à tout comprendre. Mais un jour, la consolation sera là, de telle sorte que toutes ces années de souffrance ici-bas disparaîtront. Il essuiera les larmes de nos yeux, comme pour dire, après, ce sera terminé. C'est la félicité éternelle. La félicité éternelle, n'est-ce pas merveilleux? Et pour terminer, Apocalypse, vous connaissez l'autre, 12-11. Apocalypse 12-11, un autre passage que vous connaissez bien. Au verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais alors là, ils l'ont vaincu, donc vous voyez, c'est le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors ici, nous voyons que ces chrétiens-là ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La pensée ici, c'est le témoignage. Le témoignage est important dans ce monde qui rejette Christ. Nous ne devons pas nous taire.
Il
faut parler. Et la parole de leur témoignage. Et parce qu'ils ont rendu témoignage de la réalité du sang, du sacrifice de Jésus, du sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle. Vous voyez ? Comme pour dire, en dehors du sacrifice de Jésus, il n'y a pas de pardon possible pour les hommes.
Non.
Il n'y a pas question de dire toutes les religions que nous sommes. Il n'est pas question de tout ça. Le diable voudrait bien. Il est à l'origine de tout cela.
Des religions
qui sauvent. Mais il n'est plus question de cela. Mais celui qui refuse cela, eh bien, il sera accusé. Il aura des combats. Mais là, il a entre les mains la clé de la victoire, le sang de Jésus.
Amen.
Comme pour lui dire, c'est le sang de Jésus qui sauve et rien d'autre. Mm-hmm. C'est le sang qui m'a purifié. C'est le sang qui m'a réconcilié.
Amen, amen. Mm-hmm.
Et par la parole de leur témoignage. Donc, Jésus a dit un jour, celui qui aura honte de moi sur cette terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. Donc, veillons bien ici, le sang est en rapport avec le témoignage.
Mm-hmm.
Contre les accusations du diable, il faut savoir répondre au diable.
Mm-hmm.
Dans nos pensées, on n'a pas un corps à corps avec lui. Mm-hmm. Il n'est pas question de... Jésus l'a fait, c'est à la croix. C'est dans nos pensées qu'il essaye de mettre. Mm-hmm. Il faut savoir
le résister.
Le résister.
C'est surtout là.
C'est, ouais. Ouais, c'est, tout
c'est
là
pour ça qu'il faut prendre tous les passages concernant la puissance du sang de Jésus.
Ouais.
S'il nous accuse concernant nos péchés et qu'on n'est pas pardonné, on lui dire, mais le sang de Jésus me purifie de tout péché. Mm-hmm. Mais j'ai confessé, je marche dans la lumière, le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Mm-hmm. Le sang de Jésus nous justifie, c'est-à-dire que nous rend juste aux yeux de Dieu, de telle sorte qu'on peut s'approcher du Père, comme Jésus s'approchait de son Père. On a la justice même de Jésus. Le diable n'aime pas ça. Il voudrait qu'on s'approche en haillon. Il veut nous faire croire que le vêtement de justice de Jésus, c'est un haillon. Ça vaut rien. Je veux dire, tu te trompes. C'est toi qui as un haillon, qui as des haillons. Mais moi, j'ai le vêtement de Jésus. Et à cause de cela, je peux m'approcher devant le Père. Et j'ai autorité sur toi. Tu es vaincu. Le témoignage. Il ne faut pas vendre. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, jusqu'à donner leur vie. Il faut dire, Seigneur, me voici. Je ne suis pas allé jusqu'au bout avec toi. Quand Jésus a été jusqu'au bout, nous aussi nous devons aller jusqu'au bout. Restons fidèles. Il y a eu des martyrs, il y a encore des martyrs aujourd'hui dans l'Église. Ça ne veut pas dire que tous nous serons martyrs. Mais cela veut dire que tous, chaque jour, nous devons être des chrétiens qui n'ont pas honte de Jésus et qui témoignent de la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus qui seul peut sauver, qui seul peut réconcilier avec Dieu. Il n'y a rien d'autre, ni une religion, ni des bonnes œuvres, ni quoi que ce soit, que le sacrifice de Jésus. Ça, le diable ne veut pas l'entendre. Mais maintenant, vous le savez, ça commence. Ce qui commence à dire que c'est seul Jésus sauve commence déjà à être persécuté. Ça commence. Affirmer que seulement Jésus sauve, il est le seul sauveur, il y a déjà une persécution avec ça.
C'est sûr.
Qu'est-ce que nous allons faire?
Dans certains
cas. On va se taire.
Ah
oui. Pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te taires? Hein, parce que tu ne veux pas aller en prison? Ah, c'est ça, c'est parce que tu ne veux pas aller en prison. Tu ne veux pas qu'on te rejette? S'il y a ça dans notre tête, on est fichu. Ah. Seigneur, me voici. Je vais vivre pour toi.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. En prison, en dehors de prison. Peu m'importe. Si on me rend en prison, je chanterai avec comme Paul et Silas. Je chanterai en prison. Et vous pourrez faire un bien énorme en prison en chantant. Peut-être que vous avez un ministère là-bas, si Dieu vous en va.
Ah bah oui, ça aussi. Hein.
Mais on ne va pas en prison pour, parce qu'on a mal agi.
Oui.
On va en prison justement parce qu'on est fidèle au Seigneur. Qu'on marche dans la lumière, la sainteté. Que le diable, le monde ne peut supporter. Dans certaines régions du monde, il en est ainsi. Ça, c'est une question de volonté de Dieu. Mais quoi qu'il en coûte, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a ce message derrière, un témoignage. Sans crainte. Craignons Dieu, mais ne craignons pas l'homme. Celui qui craint Dieu n'a plus la crainte de l'homme.
Oui, c'est ça.
Craignons de lui déplaire, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Cherchons pas l'approbation des hommes, cherchons l'approbation de Dieu. Que Dieu soit béni.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces vérités qui sont attachées à cette vérité du sang de Christ, du sang de l'agneau, que le diable déteste, mais qui sont glorieuses et que nous voulons caresser dans notre cœur jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ton sacrifice sanglant qui m'a purifié, qui nous a purifié, délivré de la main du diable, qui a fait de nous des sacrificateurs, des serviteurs. Tu nous consoles et aussi tu nous rends, tu nous permets de rendre témoignage.
Amen.
Afin que quelques-uns soient encore sauvés et nous serons éternellement consolés là-bas, en haut, après les tribulations de la terre. Nous voici, Seigneur, comme tu as été jusqu'au bout et que tu as tout fait pour plaire à ton Père, nous voulons aussi aller jusqu'au bout.
Oui, Jésus.
Et tout faire pour te plaire à toi et non aux hommes. À ton nom seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
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 Oui, Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu fais la lumière sur ce qui est dans les ténèbres.
Gloire.
Ou ce que les hommes ont voulu mettre dans les ténèbres te concernant, Seigneur. Nous n'avons pas accepté de mensonges, ni de la part des hommes, ni de la part du diable. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole et à ta parole seulement, parce que c'est ta parole seule qui est la vérité.
La vérité.
Et c'est que dans ta parole qu'on trouve la vérité. Tout ce que les hommes peuvent dire peuvent être tromperies ou mensonges, mais ce que tu dis, nous pouvons nous y appuyer de toutes nos forces.
Amen.
Et nous tiendrons
toute
debout.
Sécurité.
Merci Seigneur pour cela. Et le Seigneur m'a donné quelques paroles d'exhortation qui viennent, disons, compléter et qui ont été évoquées déjà dans le message, dans Hébreux 1, verset d'abord dans Hébreux 3, 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
Amen.
Ne nous laissons pas ravir par les nouveautés qui viennent.
Voilà.
Tenons ferme ce que nous avions au commencement. Et le Seigneur aujourd'hui nous a ramenés au commencement.
Amen. Notre
vie, et nous a rétabli à les bases, en fait, que certains perdent aujourd'hui, même dans les
sont perdus.
Et qui sont perdus, et qui se perdent de cette façon-là. C'est une ruse énorme du diable.
On n'entend plus ce qu'on
comme,
entend.
Comme celle
on
de dire,
plus, c'est fini.
Comme celle de dire, par exemple, que nous avons encore à combattre contre le diable.
Oui.
Mais justement, mais alors pourquoi on fait toutes ces délivrances, dis-moi? Est-ce que c'est, ça ternit, ça ternit la croix et la puissance de la croix.
Bien sûr.
Et ça glorifie
c'est, donc diabolique.
Ça glorifie.
C'est une ruse, c'est une doctrine de démon qui cherche à démolir la puissance de la croix. Oui, tout simplement. C'est pas vrai.
Tout ce qui détruit la puissance de la croix vient du malin.
Et puis aussi un autre passage dans Colossiens 3. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, aussi, cette exhortation-là, de nous exhorter les uns les autres. Ceux qui veulent bien marcher, droit, absolument la parole, et puis aussi ne pas nous attacher aux choses de cette terre. Prêt à partir. Et puis, ces paroles de la part du Seigneur prophétique, les temps sont courts. Il a été question de témoignage dans le message, c'est un peu là-dessus. Les temps sont courts, levez-vous. Marcher, aller de l'avant, chacun dans la tâche que je lui ai assignée, réalisant que tout ce que vous faites pour moi aura sa récompense. Le temps est venu où il vous faut lever vos yeux au-dessus des choses que vous voyez sur cette terre, si vous voulez tenir le coup jusqu'au bout.
Si vous voulez.
Si vous voulez, il y a le si. Il faut le faire. Lever les yeux parce qu'on serait tenté à juste regarder à ce qu'on voit. Ne vous laissez pas dominer par ce que vous voyez. Regardez en direction du ciel, de votre avenir dans ma gloire céleste. où tout est resplendissant de beauté, de pureté, d'éclat. C'est ce qui vous permettra de tenir bon. Et ma grâce sera toujours présente pour vous soutenir et vous conduire au-delà des choses difficiles que vous pouvez endurer. Ça vient encore compléter encore ce que tu viens de dire. Et puis cette autre parole, si tout est sombre autour de vous, si tout est ténèbres, obscurité, désespoir, moi je demeure pour vous un Dieu d'espérance et de lumière. Marchez aussi dans la lumière les uns avec les autres. Marchez dans la lumière du Seigneur. Pas de cachotterie, pas de dissimulation, de tromperie. Quand bien il y en a parmi eux, même ceux qui se disent chrétiens, comme tu diras. On vit pas tellement dans la transparence et la lumière du Seigneur. On se cache beaucoup de choses, là, on met des masques, on se trompe les uns les autres. Non, on ne peut pas être comme ça. Il faut être dans la lumière pure et parfaite. Je suis celui qui demeure dans la lumière et dans lequel il n'y a pas de ténèbres, pas de tromperie, pas de violence. Je suis celui qui demeure dans la lumière et la lumière demeure avec moi. Si vous levez les regards vers moi et si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Je suis et demeure pour vous un Dieu dans lequel il n'y a pas de variation. Un Dieu d'espérance et d'amour, un Dieu de vérité et de stabilité. Je suis le Dieu de toute éternité, le rocher des siècles. Je suis l'Éternel, un Dieu qui sait tout, contrôle tout et qui prendra soin de vous jusqu'à ce que je vous prenne auprès de moi. Dans la gloire, vous, de tous les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés.
Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons tenir compte de toutes ces exhortations que tu nous as données aujourd'hui. De retourner aux bases, Seigneur.
Amen.
À la croix, et de ne pas nous laisser embrigader, dévier par toutes sortes de doctrines de démons qui cherchent à ternir la puissance de la croix d'une façon ou d'une autre. Nous refusons toutes ces fausses doctrines dans notre cœur, et nous voulons veiller aussi à marcher dans la lumière les uns avec les autres, à nous exhorter les uns les autres, à être transparents les uns à l'égard des autres. Comme toi, tu es dans la lumière. Nous aussi, nous voulons marcher dans la lumière. Dans la lumière avec toi et dans la lumière les uns avec les autres. Garde-nous, Seigneur, de toute dissimulation, de toute tromperie, de tout mensonge, quel qu'il soit, ou demi-mensonge, ou manque de vérité. C'est ce qui est pareil, Seigneur. Et nous voulons aussi continuer de nous sanctifier. Le Dieu de sagesse infiniment, d'une sagesse infiniment variée. Et nous sommes si heureux de t'appartenir, Seigneur. Et nous voulons te dire, à toi nos cœurs, nos vies, pour toujours, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Amen. Amen.